Le grand marin de Catherine Poulain nous emmène en Alaska pêcher morues et flétans. Aventure garantie et qualité littéraire assurée.
Le grand marin est le premier roman de Catherine Poulain paru aux éditions de l'Olivier, inconnu il y a à peine 3 mois, sauf par quelques bas alpins, nous en parlerons dans un instant. L'auteur de 56 ans collectionne depuis articles dithyrambiques, émissions élogieuses et chroniques en amourées. Son grand marin est une réussite littéraire et commerciale, déjà 2 prix littéraires en poche. Elle est aussi en lice pour le Goncourt du premier roman. Bref, ça marche bien. Jusqu'ici, rien de bien original. Mais c'est quand on plonge dans son livre, le verbe est bien choisi, que l'on reçoit un choc rare et plutôt réconfortant. Nous allons parler écriture et lecture avec Catherine Poulain, mais aussi pêche, grands espaces, errance et voyage. Puis nous parlerons aussi de Manosque, forcément, de ses influences et de sa vie si elle le veut. Nous verrons aussi comment elle vit cette période vertigineuse depuis février, où de plateaux de télévision et radio en rencontres et dédicaces, elle répond avec un style qui lui est propre à des spécialistes étonnés de ce talent littéraire et surpris par l'histoire de Lily et son grand marin. Bonjour Catherine Poulain, merci d'avoir répondu à mon invitation.
Bonjour.
Avouons-le tout de suite, j'ai été impressionné par votre livre, je vais donc en parler avec enthousiasme, ça n'est pas si fréquent, je suis sincère, nos auditeurs me connaissent et le savent bien. Depuis sa sortie, bien des articles et interviews ont décrit et commenté cette aventure en Alaska de Lily, petite Française partie pêcher la morue noire et le flétan dans des conditions extrêmes aux côtés d'hommes bourrus et rudes, et parmi eux un grand marin au cœur tendre et qui rêve d'Hawaï, des êtres écorchés vifs qui boivent et reboivent après s'être abrutis au travail. L'histoire de Lily, Catherine Poulain, c'est une partie de votre vie ?
Oui. Oui, c'est une partie de ma vie. C'est, je ne voulais pas écrire ma biographie ni le récit de ma vie, mais pour finir, j'ai tenté de me servir de ce personnage pour faire ressortir.
Et c'est ce qu'on ressent, on sent qu'il y a du vécu et effectivement vous avez vraiment pêché. La pêche d'ailleurs et la vie à la dure, ce sont des choses qui vous conviennent.
Oh oui, j'aime être dans ce monde physique, ce monde réel, auquel on se confronte, auquel on se brûle et auquel il faut se donner à corps perdu.
Ce corps, vous l'avez maltraité, vous l'avez malmené, et puis c'est pareil aussi pour les autres pêcheurs qui sont dans un endroit confiné. Un bateau, c'est tout petit en fait, hein, c'est un carré particulier.
Oui, oui, ça fait partie du jeu. J'ai l'impression parfois que ces hommes étaient dans un grand jeu sauvage. J'avais vraiment, vraiment envie d'être acceptée, de devenir bonne pêcheur pour entrer justement dans ce jeu un peu barbare.
C'est un milieu que vous connaissiez avant de partir en Alaska ?
Non. Le milieu des hommes, oui. J'ai travaillé longtemps avec des hommes lorsque j'étais saisonnière agricole. Mais la pêche, non, je n'avais aucune idée de ce que cela pouvait être ou représenter.
Alors il y a des scènes qui sont évidemment très marquantes dans votre livre, quand vous éviscérez des flétans qui sont des poissons assez grands et impressionnants, beaucoup plus d'ailleurs que la Lily elle-même, donc parfois qui peuvent dépasser la taille de Lily et son poids surtout, dans des conditions très difficiles, du froid, de la glace, du vent, enfin bref ça tangue, et il faut les éviscérer et il faut faire vite, vite et bien. Il faut aussi charger les palangres avec les apatés, avec des hameçons. Votre livre est aussi un magnifique documentaire sur la pêche.
Merci. J'ai été très, très, très émue et très touchée qu'il ait plu aux professionnels du métier, c'est-à-dire aux gens de pêche. Parce que je me disais avec eux, je n'ai pas le droit à l'erreur, ils sont dans ce métier. Et je ne voulais pas raconter une histoire d'une petite expérience, de petite oie blanche qui va travailler au pays des hommes.
Alors ça tombe bien, on va lire un extrait tout à l'heure, on va justement revenir sur ce profil. Il y a un glossaire dans votre livre qui est très utile parce que tout le monde ne sait pas ce que sont les termes de la pêche et puis évidemment de tout ce qui concerne la pêche au gros en Alaska, hein, je rappelle c'est dans le Pacifique Nord, vous imaginez les températures à moins 20, moins 30 et puis la pêche, il faut faire vite, vite et bien et ramener ces poissons et est toujours dans un rythme effréné. À côté de ça, il y a aussi des moments de détente, et les détentes, entre guillemets, particuliers, puisque l'alcool, la drogue, voire les femmes, jouent un rôle particulier aussi. C'est un petit peu le repos du guerrier.
Oui, c'est le repos du guerrier au début, parce que c'est tellement bon de retrouver cet univers, l'univers des terriens. Comment dire, la famille, c'est la famille qui est au port, tous ces autres matelots, tous ces... Puis après avoir été dans cette discipline extrême du travail, de la pêche, avoir brimé son corps, l'avoir forcé, l'avoir obligé à se dépasser toujours, alors c'est le bonheur fou de pouvoir se laisser aller à fond. Et petit à petit, il y a ce vide qui va revenir, qui va grandir, le manque de cet effort physique intense. Et donc là, l'alcool sera encore là, mais ce ne sera plus l'alcool de manière aussi gaie, aussi heureuse.
Oui, alors c'est souvent de la bière, c'est parfois du whisky aussi, du whisky dans des bouteilles plastiques, parce que de toute façon, c'est du whisky d'assez mauvaise qualité et qui prendra jamais le goût du plastique puisqu'on le boit très très vite. C'est ce que vous avouez dans votre livre, Catherine. On boit aussi beaucoup de café. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il faut c'est des moments de convivialité aussi, ça soutient l'effort. Et dans l'effort, il faut être plutôt... il ne faut pas être saoul, il ne faut pas être ivre.
Oui, ça, on ne peut pas se le permettre. J'ai rarement connu de bateaux sur lesquels on buvait, l'équipage buvait, à part justement les bateaux... où le skipper, où le patron a l'habitude de pêcher seul ou avec juste un membre d'équipage. Alors là, il se laisse parfois aller. Et donc.
Il y a une scène dans votre livre qui reprend justement cette idée avec Lily qui s'énerve, ce qui n'est pas son cas, et régulièrement, et qui va dire au skipper, cette fois-ci tu bouges pas, tu fais rien, parce que sinon on va crever tous les deux. Et le skipper en question, qui est complètement d'équerre, qui est incapable de conduire son bateau. Je vais lire un extrait de votre livre, Catherine, pour évoquer avec vous le style. Et évidemment, on va parler de pêche. Le personnage Lily qui s'est blessée et qui a eu des problèmes avec un poison qui est entré dans sa main et qui a failli lui faire amputer sa main. Enfin bref, c'est un peu particulier et elle est en train de pêcher, évidemment. Nous allons parler de pêche. Les hameçons défilent. Ils s'élancent dans les airs à l'heure du filage, dans un déploiement d'oiseaux pâles et hurlants. Le banc de ligne est notre fil d'Ariane, notre unique obsession. On pêche. Les heures passent. Nous n'en sommes même plus conscients. Seuls comptent ces lignes qu'il faut appâter, rejeter à la mer, ramener à bord. Ces poissons que nous éventrons, la glace qu'il faut briser au pic, agenouillés dans la cale, la gîte nous envoyant bouler dans l'eau baveuse contre la masse houleuse des poissons qui roulent. L'entaille de mon pouce a cicatrisé, l'articulation violacée s'auréole d'orange, j'ai arraché les poings avec mes dents, le temps est maussade, la mer se joue de nous, on se cogne au mur dès que l'on retrouve l'espace fermé. Sur le pont, on appâte les lignes, le grand gars maigre est dans la timonerie. Jesse travaille aux machines, peut-être. Je rapporte des cafés et des barres de chocolat. Les hommes retirent leurs gants. Jude sort une cigarette. Simon attrape une cassette, etc., etc. On sent bien votre style, Catherine, qui est très court. Ce sont des phrases courtes, parfois quelques mots, simplement pour décrire des actions et des actions qui sont très souvent répétitives. Comme par exemple appâter, pêcher, ramener.
Oui, des actions répétitives et parfois c'est aussi pour donner ce sentiment, parfois aussi d'urgence et d'évidence. C'est évident, c'est ce qu'il faut faire, comme lorsque je parle de son départ, tout va vite parce qu'il faut partir. Donc c'est une manière, oui, on ne traîne pas, il ne faut pas traîner.
Et ce sont des hommes, on l'a vu, là, il y avait déjà quatre personnages, dont le grand marin qui apparaît déjà, et que l'on retrouve dans tout le livre, évidemment. Des hommes qui vous font pas de cadeaux. Vous font pas de cadeaux, et il y a un échange à un moment. C'est le deuxième extrait que je voudrais je voudrais lire un extrait un peu particulier où effectivement on va vous dire quelques vérités, quoi. C'est un dialogue. Et ton bateau, j'ai dit, quand est-ce que tu le sors pour aller pêcher? Elle discute avec Ryan, qui est un skipper. Il a été long à répondre. Un jour peut-être, il a marmonné laconique. Ah, tu es d'où? Je viens du cul du monde, quelque part dans les Lower 48, mais ça fait longtemps, et j'ai presque oublié, et vivement que je finisse d'oublier tous ces culs terreux. Et toi, qu'est-ce que tu fous ici? Il ne me regardait pas. Je suis venu pêcher. Bien, tu l'as fait alors, tu rentres quand? Je sais pas, peut-être jamais. T'as pas de mec? Non, enfin, pas ici, et même, on ne veut pas de gens comme toi ici. On est bien entre nous, on ne veut pas de touristes qui viennent faire une expérience, se taper des mecs et raconter après qu'elles ont connu l'extrême. Je me suis levé, mon tabouret s'est renversé, j'étais toute rouge, la lèvre tremblante, j'ai marché d'un pas hésitant vers la sortie. On aurait cru que j'étais saoul. On vous a pas fait de cadeau?
Oui. Mais surtout, c'est une humiliation terrible de se faire... que les gens puissent imaginer qu'on soit une collectionneuse d'expériences alors qu'on veut donner sa vie... on est prêt à donner sa vie, oui, pour la pêche, pour les bateaux, pour un embarquement.
Et pourtant, vous étiez reconnue. À un moment, ils vous acceptent bien, ces hommes, pour pêcher, et ils vous considèrent comme un des leurs.
Oui. Oui, oui, ça s'est fait. Mais il a fallu passer par un apprentissage qui est assez rude, assez pénible. Mais heureusement qu'il y a cet apprentissage. Autrement, les choses n'auraient pas de... Les choses seraient édulcorées, donc ça n'aurait aucun sens. Mais il m'a fallu des années et des années, en fait, pour arriver à être vraiment reconnue et à ce qu'on vienne me chercher, qu'on ait besoin d'un bon matelot et qu'on pense à moi et qu'on me redemande.
C'est un univers d'hommes. Vous avez aussi vous avez obtenu deux prix littéraires, le prix Macorlan et le prix Kessel. Vous rejoignez par votre écriture des gens comme London, Melville, Conrad, Kerouac. C'est une belle galerie où l'aventure règne. Et une fois encore, une femme parmi les hommes. C'est bizarre.
C'est... Ben, mon personnage, lorsqu'elle s'en va, elle ne pense même pas au genre, au problème de genre. Elle dit, je veux aller pêcher en Alaska, j'y vais. Et les gens lui disent, avec des hordes d'hommes, tu es folle. Et l'important, justement, c'est d'oublier son genre et de se dire, je veux le faire, je tente.
Et elle va
y arriver. Et je pense que il faut essayer de sortir de ces, autrement, on se plaindrait, rapidement, on dirait ils ne m'ont pas respecté. Oui, il faut arriver à sortir de toutes ces cases et tout. Et c'est comme ça qu'on va trouver enfin une fraternité parfois avec les hommes parce qu'on aura dépassé tout ça.
Alors, vous avez répondu à plusieurs interviews, notamment dans des radios prestigieuses, radios publiques et autres. Mais ici, nous sommes à Manosque, Catherine, vous le savez. Et Manosque tient un rôle particulier dans votre livre. Je vais lire les premières lignes de votre roman, du Grand Marin, et on va reparler de Manosque juste après. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska, mais y arriver, à quoi bon? J'ai fait mon sac, c'est la nuit. Un jour, je quitte Manosque les plateaux, Manosque les couteaux, c'est février. Les bars ne désemplissent pas la fumée et la bière, je pars. Le bout du monde, sur la grande bleue, vers le cristal et le péril, je pars. Je ne veux plus mourir d'ennui, de bière, d'une balle perdue, de malheur, je pars. Tu es folle, ils se moquent toujours. Toute seule sur des bateaux avec des hordes d'hommes, tu es folle. Ils rient. Riez, buvez, défoncez-vous, mourrez si vous voulez, pas moi. Je pars pêcher en Alaska, salut, je suis parti. Ça, c'est les premières phrases de votre livre, avec déjà ce style très elliptique, très, très particulier. Et évidemment, l'expression qui nous frappe ici même, c'est Manosque les plateaux et Manosque les couteaux. Quand on sait comment vous vous servez d'un couteau sur les bateaux en Alaska, cette expression prend tout son sens. Mais Manosque les plateaux, ça fait référence à un livre que nous connaissons bien, qui est Manosque des plateaux de Jean Giono.
Eh oui. J'ai voulu jouer avec ces deux images, mais ça m'est venu naturellement, hein, je n'avais pas de message à... Enfin, pas message. C'était un petit coup de canif quand même, c'est le cas de le dire, dans Manosque. Et je voulais surtout dire que peut-être, lorsqu'on pense à Manosque, on pense souvent au Manosque de Giono, c'est-à-dire un Manosque assez bucolique peut-être, et qu'il peut exister un autre Manosque qui est plus dangereux aujourd'hui.
Plus dur, où l'on meurt d'ennui, de bière,
ou d'une balle perdue. Et je ne me suis pas attardée dessus parce qu'il faut laisser le mystère. Et comme m'a dit mon éditeur, il m'a dit c'est déjà une autre histoire. Je lui ai dit oui, c'est vrai, c'est une autre histoire.
Alors justement, votre éditeur c'est Olivier Cohen, qu'on connaît bien pour le voir régulièrement lors des correspondances de Manosque ici même, qui a été séduit par votre écriture. Il a eu le nez fin, puisqu'effectivement c'est un livre qui a un bon succès, il est déjà réédité. Vous avez des suites qui sont en préparation, Catherine ?
Oh oui, nous en avons déjà parlé ensemble. De toute façon, j'ai beaucoup écrit dans ma vie. Donc j'ai des trames, j'ai construit la trame de ce que je voudrais vraiment faire, un synopsis très 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 vaste, mais en fait qui est constitué de je ne sais combien de livres. Et c'est vraiment le projet de ma vie, je pense.
Et Olivier Cohen vous soutient ?
Oh oui.
Il va suivre votre parcours littéraire ?
Oui, nous nous comprenons très très bien. Et lorsqu'on a parlé du prochain, on avait la même idée, parce qu'il connaît un peu mes trames différentes et mes projets. Et il m'a proposé quelque chose. Il m'a dit, pourquoi ne feriez-vous pas ça ? J'ai dit, j'étais justement en train d'y penser. Je crois que j'ai peut-être travaillé cette chose-là.
Un peu comme Giono avait son Gallimard, où vous avez votre Cohen. Et c'est pas mal aussi. Catherine, on va pas dévoiler vos idées d'écriture, et on attendra avec impatience cette parution, évidemment. Qu'est-ce que vous lisez et quels ont été les auteurs qui vous ont accompagné ?
J'ai une culture littéraire extrêmement disparate. N'ayant pas eu de chez moi longtemps, donc je me déplaçais, j'étais nomade. Donc les livres, je les laissais derrière moi. À l'étranger, à Kodiak, je lisais donc en américain. Je perdais donc les noms des auteurs. Et donc je n'ai...
Pas marqué par des écrivains particuliers.
Je sais que jeune, ma mère adorait Duras. Et pour nous, c'était la plus grande... Mais c'est difficile de... Je parle souvent des nourritures terrestres de Gide, mais c'est parce que pour ce que ça comporte. Je parle d'être un jeune poète de Rilke. J'adore la littérature américaine pour son côté immédiat, son côté instinctif, son côté on est tout de suite dedans, son côté oui physique. Mais c'est terrible de devoir s'arrêter à une certaine littérature. Les latinos ont écrit des choses absolument, des fresques magnifiques, des choses puissantes. Les scandinaves ont écrit des choses extrêmement pures et belles et simples. Tar Fartsev. J'aime beaucoup, beaucoup Henri Bouchaud, lui qui est belge. Il y a des Irlandais, Irlandaises qui sont extraordinaires. Il y a des... Bon, donc j'ai... Je crois que je n'ai pas le temps de citer tous ces...
On vous sent curieuse de découvrir le monde et de découvrir des écritures diverses et variées. Donc ça, c'est une bonne chose. Catherine, vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de votre métier ? Alors
oui.
Alors que ça répond généralement, c'est la première question qu'on vous pose, on va le dire très brièvement, vous êtes bergère en Haute-Provence, vous gardez des moutons et vous nous avez fait l'amitié de venir avec Mozart, qui est votre chien, et qui est couché à nos côtés là, et qui est gentil comme tout, et qui est assez impressionnant hein, d'ailleurs, parce que c'est un chien qui pourrait garder des troupeaux. On va pas parler du loup et des méfaits du loup. Vous êtes aussi, vous travaillez dans des domaines viticoles en Médoc, vous adorez ça, et l'écriture vient un petit peu comme un contrepoint intéressant et important et vital pour vous, on le sent bien. On va d'ailleurs briser un des tabous qu'utilise un petit peu Olivier Cohen. Vous n'êtes pas né à Manosque, il faut le dire, il faut le souligner, mais vous avez vécu longtemps et vous avez encore des attaches à Manosque, et c'est une bonne chose. On ne va pas vous questionner plus sur Manosque. Par contre, Catherine, vous vivez en ce moment une période particulière. On sent très bien que ça n'est pas votre monde, le monde de l'édition, de la littérature, des plateaux radio et télévision. Comment vous la vivez, cette période ?
Au début, j'étais assez terrorisée. J'étais affolée par mon image, justement, mon image dans les médias, dans les journaux. Tous ces portraits, ils ont fait beaucoup de portraits. Et je me disais, moi qui étais secrète et qui vivais un peu en marge, qui ai toujours vécu en marge, c'était effrayant. Le sentiment d'avoir l'image qui vous a été volée. Et puis je me suis dit, il faut prendre de la distance avec tout ça, c'est le jeu de la promotion. J'ai trouvé un remplaçant pour les brebis. Et je me dis, il faut s'y mettre à fond, c'est un beau voyage. Parfois, j'ai l'impression d'être un peu passée dans une lessiveuse, parce que c'est... Mais je me dis que c'est une vague, les vagues retombent toujours. J'ai de la chance d'être dans une vague assez, assez haute, d'accord. Mais bientôt, il y aura la rentrée de septembre, et il y aura une autre vague de surf, et d'autres iront surfer. Et en attendant, j'essaye de prendre ça comme un... être en suspens un peu, je suis dans une bulle.
Quand vous avez un Dany Laferrière à la télévision avec François Bunel qui fait l'éloge du grand marin, Dany Laferrière, grand écrivain haïtien, membre de l'Académie française, qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là ?
Oh, c'est très, très... C'est très... C'est assez émouvant. Mais de toute façon, tout est tellement... Tout m'a semblé tellement irréel que bon, c'est une chose irréelle parmi les autres. Ce qui est extraordinaire, c'est de pouvoir d'avoir rencontré tous ces auteurs et de me rendre compte que c'était des humains comme moi.
Donc c'est une belle chose. Peut-être qu'ils viendront vous voir avec au milieu de votre troupeau, Catherine. Qui sait ?
Oui, déjà, Christian Garcin devrait venir.
Ah, c'est bien, c'est bien. Donc, c'est à suivre aussi. Et puis nous, on va suivre votre activité ici à Manosque et puis évidemment dans le monde entier. Vous m'avez dit hors antenne tout à l'heure que le Grand Marin va être traduit en plusieurs langues.
Oui, bientôt 8 langues, je crois.
Donc c'est une bonne chose, ça veut dire que vous allez toucher un public différent, peut-être en Amérique, Amérique latine peut-être aussi, et puis évidemment oui. En Europe. Donc c'est une bonne chose, et nous attendrons avec impatience le Grand Marin 2, peut-être la suite à Hawaï ou à Point Barrow. Vous avez été à Point Barrow justement ?
Non, jamais.
Non ? Ça reste votre last frontier ?
Oui, je pense que c'est le point qu'il ne faut pas atteindre. D'ailleurs, mon personnage, lorsqu'elle parle de Point Barrow, c'est sans doute pour sauter. Et sauter, c'est pas une bonne chose. C'est pas très, très, très... Si on saute, on meurt, lui dit-on.
Et si vous voulez comprendre ce dernier échange, eh bien, il vous faudra lire Le Grand Marin. C'est paru aux éditions de l'Olivier. Le Grand Marin, Catherine Poulain. C'est un livre, moi, qui m'a marqué. Vous l'avez senti dans cette interview. Merci beaucoup, Catherine Poulain, et à très bientôt.
Merci à vous.